Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tout univers.
Comme c'était le début de la Lune, enfin le début, où, à peu près le début, où on commençait à balancer des satellites dans la Lune, les Américains, les Russes, les machins, même les Français après.
Au village, par nuit claire, on voit la Voie lactée. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Dolène, les étoiles sont à portée de main.
Autant comme nous on y va, eux ils reviennent en trottée.
La nuit, le spectacle est en l'air. Certains ici regardent l'espace comme d'autres la télévision.
Ils sont là.
Ils sortaient avec les appareils,
ils sont là. Oui, je me rappelle.
Ils connaissent les heures de passage des satellites.
En vrai, ça rappelait du gars, là, bien sûr.
En 1976, un Suisse, Jean-Pierre Chambrault, est venu ici chasser l'extraterrestre. Et en a fait un livre, La Corse passe d'OVNI. Une référence de l'ufologie.
Plus tard, parce que j'étais pas libre. Il a fait un livre qui a marché.
Je le relis régulièrement.
Et le livre, il a plus ou moins marché. Et après, ça menait du monde.
René, un habitant d'Olaine, était un jeune homme à l'époque. Il se souvient.
Je me souviens d'un livre aussi, oui. J'avais vu, je crois, mais je sais plus.
Il y a des Suisses qui venaient, et puis pas que des Suisses. Ils cherchaient la base, le truc des Martiens en Corse. Ça a duré 4 ou 5 ans, l'histoire.
Après, je sais qu'il y avait un bonhomme dans la chambre avec des appareils et des machins qui regardaient par
la fenêtre.
Je
ne
m'occupais pas trop de.
Et René, ça fait 40 ans.
Ah ben oui, c'est ce que
je veux dire.
J'étais jeune, oh, oui.
Tu es mort, toi.
Ah. Oui, je m'en rappelle. Oui,
c'est mort, il n'y a pas longtemps, il paraît, c'est ça.
Mais je...
Il y a des phénomènes étranges.
Comment tu es au col de la Vache,
ouais, c'est ça.
Que l'on rencontre sur la route.
Oui, non, ça, c'est ça, je m'en rappelle, oui. De ça,
c'est...
Par estrade. Une road story qui s'écoute dans des chemins paranormaux.
Le mec est arrivé en Corse en vacances, mais à mon avis, il est arrivé avec l'idée de... Parce qu'il était dans un autre monde, avec l'idée de le rencontrer ou d'essayer de savoir... Parce que c'était l'époque de la Lune, on commençait à monter sur la Lune, les Américains, là. À mon avis, il est venu avec cette idée-là. Parce qu'il avait tout un appareillage, des lampes portées, des machins, des trucs. Et il disait qu'il était en contact avec les Martiens.
Il est un fait établi depuis longtemps que le bassin méditerranéen est en permanence visité ou surveillé par les mystérieux ovnis. Ce qui caractérise le phénomène ovni en Corse, c'est la permanence des observations. Les centaines de témoignages recueillis en l'espace de quelques mois montrent l'importance de l'intense activité qui y règne. Quelle valeur peut avoir cette petite île méditerranéenne pour nos célestes visiteurs ? L'épicentre du phénomène OVNI se situe dans la région de Olaine et se propage selon un couloir bien déterminé.
Et vraiment, la Corse, pour lui, c'était une base de Martiens. Et c'était là où ils se posaient, c'était là où ils arrivaient. Et lui, il est resté, je crois, presque un mois à Olaine, à l'hôtel. Il avait pris une chambre à l'hôtel, il mangeait, il dormait, il vivait là à l'hôtel. Alors la nuit, il se mettait à la fenêtre, il regardait les étoiles avec ses longues portées, filmait tout ça, il regardait tout ça, et pour lui, c'était tout à fait logique, quoi, c'était normal. Mais tu sais que je le revois toujours, mince il était. Tu vois Jean-Pierre, le frère, un peu de ce style-là, mais plus petit, mince, un peu sec. Tu vois. Ça, je le revois toujours, le type, je le revois. Il disait qu'il était en contact avec les Martiens. et qu'il arrivait à discuter avec eux, qu'il était en contact, qu'il voulait les rencontrer, et que la Corse, c'était une base de décollage et d'atterrissage.
La nuit était claire et s'étendait sur toutes les montagnes alentour. Nous attendions en silence l'inimaginable, l'impossible rêve de tout ufologue. À 21h15, un de mes compagnons s'écria « Regardez là-bas, c'est un ovni !» Une petite lumière blanche se déplaçait à l'horizon, lentement. Soudain, la lumière devint plus brillante, plus volumineuse. Nous retenions notre souffle, les yeux rivés sur la chose qui ressemblait à présent à une sphère lumineuse de 10 à 15 mètres de diamètre. Puis, un projecteur s'alluma, sous la boule, et un faisceau de lumière blanchâtre balaya le maquis méthodiquement. L'un de nous s'empara d'une torche électrique et fit 3 signaux lumineux en direction de l'engin. Aussitôt, avec une rapidité et une précision étonnantes, le faisceau pivota sur son axe et se dirigea sur nous. La lumière était aveuglante et nous répondit également par 3 fois. Nous recommençâmes le même processus et le faisceau clignota encore 3 fois.
Il partait d'un village à un autre, il faisait que ça le jour, la nuit. Il montait au col de la Vache, il montait au col de la Tanne, il allait sur Carjac, il allait sur Lorite, il allait sur Olaine.
Toute la descente vers la Valinque, ouais. C'est-à-dire toute la base de décollage. Et je crois qu'il a une ligne droite entre Carjac et Lorette, où il dit que c'est là qu'est la base, mais qu'elle est en décalage d'une seconde au niveau du temps par rapport à nous. Ce qui fait que on ne peut pas la traverser, parce qu'elle a toujours une seconde d'avance.
Voilà, et des fois il arrivait. On arrive, alors, une ou deux fois, ou plusieurs fois même, je crois, on arrivait à l'endroit où on avait calculé notre coup pour lui montrer qu'il se posait là et tout. Et on arrivait et lui disait, ah, on est arrivé juste un peu trop tard, ils viennent de partir. Je les entends, je les ressens et tout, mais ils viennent de partir. Et nous on disait, ouais, ça doit être ça, parce qu'on serait arrivé 5 minutes avant, on les aurait chopés, quoi. Ou ils nous auraient chopés, quoi, ou c'est eux qui nous auraient chopés, quoi. Et lui, il était prêt à partir. Lui, dans sa tête, c'était prêt à partir avec eux.
Un soir, nous comptâmes jusqu'à 5 formes humaines, lumineuses, qui, visiblement, s'affairaient à une tâche bien incompréhensible. À une centaine de mètres de ces apparitions lumineuses, s'élevait au-dessus du sol une sorte de condensation nébuleuse d'un magnifique reflet bleuté. On aurait dit un tube de néon aux éclats d'azurine dans une masse de brouillard.
Ah ouais, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. C'était. Puis nous, c'était un jeu pour nous, on était jeunes, on s'en. Ouais, c'était un jeu, ça passait. Hein. Mais lui, c'était quelqu'un qui croyait. Hein. À mon avis, il était déjà lui-même sur notre planète. Hein. Après, il y avait des jeunes qui s'emmerdaient un peu, quoi. Et qui ont dit allez, allez, on va s'amuser, on va rigoler. Ils l'ont pris un peu en main, quoi. On a commencé à déconner avec lui, on a commencé à l'emmener dans le maquis, on a commencé le soir à sortir avec lui, à lui faire, je ne sais pas s'il le croyait, mais je pense qu'il le croyait, à dire que nous aussi on était en contact avec les Martiens.
Quand on a fait son bois, quand on a beaucoup chassé, que les travaux programmés à l'automne sont terminés, on s'ennuie l'hiver dans les villages. Alors un Suisse chasseur d'ovnis devient vite une attraction ludique. Tous les villages de la montagne ont joué le jeu. À la manœuvre de la supercherie était un certain Michel Ange, un imperturbable acteur. Michel Ange faisait office de guide. Il pointa le doigt vers le sol et nous dit « Voilà, c'est ici qu'ils se sont posés ». Devant nous se dessinait très nettement une vaste surface de 8 mètres de diamètre, parfaitement circulaire. L'herbe était couchée, dans le sens des aiguilles d'une montre. J'observais méticuleusement l'endroit. Pas d'empreinte profonde dans la terre meuble, aucune trace de calcination. L'herbe n'était pas brûlée, mais simplement aplatie de façon très uniforme. Le bord extérieur du cercle me permit de noter que l'herbe était d'une pigmentation un peu plus sombre. Et pourtant, il y avait un énorme paradoxe. Au centre de cette surface circulaire se trouvaient deux jeunes arbres. Leur tronc était à peine plus gros que le poignet d'un jeune enfant. Ces arbres ne faisaient l'objet d'aucune altération. Pas de branches pliées, feuillage intact.
Et puis dans la nuit, il y a quelqu'un qui s'était occupé de lui, donc il l'a amené sur place, et d'autres s'étaient mis en place avec du papier d'aluminium, mais tout enroulé de papier d'aluminium, avec des bois, des morceaux de bois attachés comme ça, tout enroulé de papier d'aluminium, et des lampes au-dessus, et ils marchaient comme ça dans le maquis, et lui, il leur courait derrière, tu vois, ils sont là, je le vois, mais les autres, ils s'échappaient, ils se cachaient, ils éteignaient les lumières, après, les... tu vois, là, ils ont décollé et tout, donc c'était rigolo, quoi. Et moi, je m'en souviens, j'avais une voiture avec les vitesses au volant, et il y avait un faux contact. Et quand je changeais de vitesse, il y avait une petite lumière qui se faisait, quoi. Et lui, quand il était à côté de moi, quand il voyait ça, il me disait, tu vois, ils sont là, ils sont en contact avec eux, il faut que tu t'arrêtes, arrête-toi. Donc il s'arrêtait, on sortait, il partait dans le maquis en pleine nuit. Hein.
Nous avions pris le soin d'emporter avec nous un magnétophone, une caméra, quelques appareils photo, une paire de jumelles, une boussole, une carte d'état-major, des talkie-walkie. En somme, l'équipement parfait pour mener à bien une mission impossible. Michel-Ange est aujourd'hui encore en vie, dans un village un peu plus bas dans la vallée. C'est un homme instruit par des années de lecture et de discussions savantes sur des bancs de granit. Mais de ces hommes à l'air rude, pince sans rire à l'extrême, et qui, cet hiver-là, s'est laissé soi-disant hypnotiser par le chasseur devenu suisse, trop confiant dans le jugement qu'il avait de l'autre. Il y en a encore beaucoup dans les montagnes de ces Corses aux codes incompréhensibles par bon nombre de personnes. Tous les attraits du russe, du gars simple sinon simplé, alors que le niveau culturel et intellectuel est bien supérieur à la moyenne. Ils ont le mépris du paraître et l'amour de la taquinerie insistante.
Cet homme célibataire, sans profession bien définie, ne connaissait que bien peu de choses de notre société, de ses vastes ensembles urbains et de tous ces gadgets sophistiqués qui dépeuplent tant nos campagnes. Il était bien allé sur le continent, mais le mal du pays ne tarda pas à faire de lui un déraciné, un être pour qui le travail, la vie, la famille prenaient un autre sens là-bas, sur son île natale. Sa culture est assez primaire, mais, comme tout homme de la terre, il possède un raisonnement stable, sans exaltation.
Jean-Pierre Chambreau, l'ufologue, utilisait l'hypnose pour entrer en contact avec les extraterrestres. Avec Michel-Ange et quelques autres contactés, comme il les appelait, il en a eu plus que dans ses rêves les plus fous.
Trois êtres descendent le long du ruisseau, le plus grand à 4 mètres environ, les deux autres dans 2 mètres 50, le plus grand a l'air indifférent. C'est sans doute le chef. Il dirige les autres par des signes. Comment est habillé le plus grand? Une combinaison lumineuse, d'un blanc brillant, qui n'éblouit pas. Il porte une ceinture dorée. Décris-moi son visage. Il a deux grands yeux jaunes très clairs. Ils sont plus hauts que sur un visage humain, plus ouverts. Je ne vois pas de paupières ni de sourcils. Le front est tout plat. Cheveux brillants. Il a un nez très petit avec deux trous. Il a une bouche fermée. On ne voit pas ses dents. Les deux autres êtres, comment sont-ils? Ils sont plus petits, environ la moitié. Ils ont 2 mètres, 2 mètres 50. Ils sont habillés de la même façon, mais moins brillantes. Voit-on leur visage? Un oui. L'autre a comme un masque plat qui recouvre son visage. Il a des trous pour voir et il est blanc mat. Décris-moi le visage de celui qui ne porte pas de masque. Des grands yeux, très grands, jaunes aussi. Sa peau semble fluorescente. Je ne vois pas d'oreille. Il a des cheveux. On dirait qu'ils sont métalliques, comme de l'inox. A-t-il une bouche? Oui, une fente, mais pas de dents. Je ne les vois pas. Sa bouche est presque fermée. Décris-moi leur tenue vestimentaire. Combinaison lumineuse d'un blanc brillant. Ça brille tout autour du corps et la forme du corps n'est pas très nette. Comme un halo qui l'entoure. Ont-ils des bottes? Oui, de la même couleur. Ont-ils des gants? Oui, de la même couleur que la combinaison. Y a-t-il un motif sur leur combinaison? Non, mais le plus grand a un étui sur le côté droit. On dirait un petit sac. Et que vois-tu d'autre? Il a un ceinturon doré. On dirait une boule devant le ceinturon. Intègre-toi à cette boule. Que vois-tu? C'est drôle. Il y a plein de petites plaquettes transparentes. Elles sont bien alignées. Il y en a bien une centaine.
Ils avaient fait un système de poutres comme ça et ils s'étaient posés dessus. Donc avec les lampes comme ça, ils allumaient, ils éteignaient. Lui de loin, il ne comprenait plus rien, quoi. Et il pensait que c'était des géants, quoi. Finalement, c'était des gens normaux qui étaient posés sur des poutres en bois, avec plein de, tout enroulé de papier aluminium, avec des lampes et des conneries comme ça, quoi. Ils avaient pris des jeunes, des enfants, et ils avaient trouvé des peaux, je sais pas si c'était des peaux de vache ou de cochon, j'en sais rien. Ils s'étaient habillés avec des peaux, et c'était des petits velus, comme un peu, pas des singes, mais comme des extraterrestres qui viennent de l'autre monde, quoi, qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une autre planète. Et lui était époustouflé. Donc avec des lampes et tout comme ça, c'était rigolo, quoi.
Leur corps te semble-t-il différent du nôtre? Non. Et leur respiration est-elle identique à la nôtre? Non, je ne vois pas leur thorax bouger. Pénètre dans leur corps. Que vois-tu? Je ne vois que du blanc. Je ne sens rien. Te donne-t-il l'impression d'être vivant? Oui. Pourquoi? On dirait que ça bouge. Je ne vois pas bien, mais il y a une petite tache noire au niveau du cœur. Pénètre dans cette tache, que vois-tu? On dirait des petites bêtes. C'est plat. Il y a 5 pattes, il y en a beaucoup. Pénètre dans l'une de ces petites bêtes. Que vois-tu? Je ne vois rien. Tu ressors et tu les vois toujours. Intègre-toi à leur origine. D'où viennent-ils? Je ne sais pas. Combien de temps mettent-ils pour venir sur Terre? 2 jours terrestres. Est-ce loin de la Terre?
Oui.
Est-ce dans notre système solaire?
Oui. Je ne connais pas son nom. Elle n'a pas été encore découverte. Elle se situe au-delà de Pluton.
Je ne me rappelle plus bien, il avait du matériel, mais d'ailleurs, en bas, il s'est amusé de lui, puis un jour, ils lui ont tout piqué. Ils n'ont pas tardé, il y a des phénomènes en bas. Ils ont tout piqué, ils sont tout venus, il est reparti à Sikkelpik.
Ouais, il avait des longues vues.
Ouais, il avait des longues
vues. Il avait un détecteur, un truc de...
Il avait un détecteur, il avait une espèce de valise avec plein de bordel dedans. Moi, je ne veux pas trop faire attention, mais je vois toujours un peu le bordel qu'il avait. Mais après, en bas, ils n'ont pas réfléchi, ils ont dit, attends, maintenant... Toi, on va s'amuser, mais ça va nous rapporter un peu. Ils ont dû tout voir, après, à savoir. Après, il y a des gens qui y croient, oui, oui.
Un paquet, hein.
Oui, oui, parce qu'après, il avait terminé avec ce livre, là. Il y en a beaucoup qui l'ont lu et les gens, certains, ils y croyaient, quoi.
Parce que son livre, c'est devenu une bible, enfin, un grand livre d'ufologie, d'extraterrestres, quoi.
À un moment donné, en Corse, ils en vendaient, hein. C'était un livre qui passait bien, quoi. Mais il y a plein de gens qui sont arrivés. Pendant une dizaine d'années, il y a plein de gens qui arrivaient ici dans la région parce qu'ils avaient lu ce livre et... Parce qu'il y en avait qui croyaient ou qui pensaient, diront peut-être c'est pas vrai, mais on y va quand même, tu vois. Tu sais, les gens, ils sont curieux après. Ah oui, pendant des années, ils posaient des questions, ils demandaient. Ah oh, putain.
Olen, son saucisson, ses extraterrestres.
Mais c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, un petit peu marginal, c'était un petit peu...
C'est devenu un grand livre parce que tu as des mecs cardiaques et toi qui...
Mais c'est incroyable quand même.
Ouais.
Parce que quand tu vois ça, tu ne penses pas, tu dis... Les gens ne pensaient même pas qu'il allait faire un livre.
Non, vous rigoliez.
Moi, j'avais 20 ans. Mais j'avais 20 ans, 30 ans un peu. J'en ai 64 ans, 20 ans. Putain, j'aimerais revenir en arrière.
Et les extraterrestres, tu en as vu ou pas?
Ouais, j'espère en voir un jour, avant de mourir. Pour le moment, je n'en ai pas revu. Mais j'aimerais en voir un jour. Allez, on est tous extraterrestres,
ah oui,
on est tous un peu dans notre monde.
C'était un épisode de Paristrada, un podcast réalisé par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon et produit par le label Popcast.
Le prochain épisode, c'est un artisanat de pointe à Ajaccio qui nous mènera des géants cosmiques aux géants du ciel.